Éco-d'économie.
Des fermiers de Kalemi ont reçu une centaine de bêtes du gouvernement provincial du Katanga. Objectif, multiplier ces animaux pendant 5 ans dans le cadre du projet pilote des vaches de bovins lancé en 2009. L'actualité, c'est aussi la baisse d'importation au Nord Kivu depuis 2014. Les commerçants préfèrent dédouaner leurs marchandises au Sud Kivu et les recettes à la douane du Nord Kivu sont également revues à la baisse. La majorité des sites miniers de l'Est de la RDC ne sont pas qualifiés, une situation qui profiterait aux entreprises européennes en défavorisant la population, constate une mission des parlementaires européens dans l'Est de la RDC. Bonsoir et bienvenue à tous. De 300 000 têtes de bovins avant la guerre, le cheptel du district de Tanganyika a chuté jusqu'à 21 000 actuellement. Pour pallier à cette situation, les autorités ont lancé en 2009 le projet pilote d'élevage des bovins. Cela fait 5 mois exactement que ce projet est entré dans la phase dite de métayage. Une centaine de bêtes ont été distribuées à une dizaine de fermiers. Les bénéficiaires se sont engagés auprès du gouvernement provincial à rembourser les bêtes reçues après une échéance de 5 ans, sans oublier d'ajouter une bête au total reçu. Expédie Mambamoubi.
Lorsque, en décembre 2014, le gouvernement provincial du Katanga procède à la distribution des vaches, après 5 années de phase de multiplication, 13 fermiers ou associations sont retenus comme bénéficiaires de la première rotation de la phase de métayage. Sur les 87 bêtes de Kalemi, la ferme qui avait hébergé les bêtes en phase de multiplication en reçoit 27, 6 autres fermes reçoivent 9 bêtes chacune, la 8e ferme en reçoit 4 et la dernière 2. À Moba, 4 fermes reçoivent 7 bêtes chacune. Rendez-vous dans 5 ans. À cette période, chaque ferme bénéficiaire devra rendre le nombre de bêtes reçues plus une bête. C'est alors que commencera la deuxième rotation de bétayage avec de nouveaux bénéficiaires cette fois. Notez que toutes ces données nous ont été fournies par l'inspection de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Pour la petite histoire, c'est le 18 août 2009 que ce projet pilote a démarré à Kalemi avec un premier lot de 20 bêtes. À Moba, l'élevage pilote a démarré avec 9 bêtes. Au bout de 5 ans, la multiplication du troupeau a permis d'atteindre le nombre de 87 bêtes pour le territoire de Kalemi et 27 pour celui de Moba. Kalemi, Expedi Mwambamoubi pour Éco d'économie.
Les importations sont en baisse depuis fin 2014 au Nord Kivu. De plus en plus, des commerçants préfèrent dédouaner leurs marchandises au Sud Kivu voisin, notamment à partir du poste frontalier de Kamanyola dans le territoire de Walungu, c'est vers Uvira. D'après certains commerçants, c'est pour éviter ce qu'ils appellent des tracasseries douanières au Nord Kivu lors des déclarations de douane. Et évidemment, cette baisse d'importation au Nord Kivu a de répercussions sur les recettes de l'État, d'après ce que nous dit Denise Lukeso dans ce reportage.
Nombreux sont les commerçants de Goma qui disent préférer dédouaner leurs marchandises au Sud Kivu au lieu du Nord Kivu. Ils évoquent comme raison des multiples tracasseries qui les poussent à se tourner vers les postes frontaliers de Kamanyola. Cette situation a entraîné comme conséquence la baisse des importations au niveau de la douane au Nord Kivu. Le directeur de la DGDA n'a pas souhaité s'exprimer là-dessus. Toutefois, d'autres sources au sein de cette régie financière confirment cette baisse. Pour ces sources, c'est depuis fin 2014 que cette baisse est observée au niveau de quelques postes frontaliers, notamment ceux de la petite et grande barrière. La petite barrière, à elle seule, faisait entrer en 2014 environ 58 millions de francs congolais par mois, mais d'après ses sources, cette année, elle atteint à peine 12 millions de francs congolais. Notez, en 2014, les assignations exigées par la Direction générale des douanes et accises à Kinshasa étaient de 8 à 9 milliards de francs congolais par mois, soit 10 millions de dollars américains pour le Nord Kivu. Et la DGDA Nord Kivu arrivait à atteindre 100 ou plus de 100% d'assignation. Il s'est fait que cette année, les assignations de la DGDA Nord Kivu ont été revues à la hausse. Elles se chiffrent autour de 13 milliards de francs congolais. D'après toujours nos sources à la DGDA, malheureusement, le trafic n'a pas connu de hausse par rapport aux assignations fixées. La DGDA continue toujours à réaliser 8 à 9 milliards de francs comme en 2014 et ne parvient pas à atteindre les 13 milliards de francs congolais attendus. Goma, Denise Louquet sur Radio Okapi.
L'interdiction des 38 taxes illégales dans le secteur du transport fluvial était ce jeudi à Mbandaka, au centre de la conférence provinciale sur le climat des affaires dans la province de l'Équateur. Avec l'appui de l'ONG Elan RDC, l'objectif est l'émergence du secteur privé, mais aussi l'identification des opportunités d'amélioration des affaires dans la province. Pour les organisateurs, la suppression de ces taxes va en outre réduire les tracasseries, sécuriser les opérateurs économiques et faciliter l'écoulement des biens. Cependant, l'exécutif provincial déplore un manque à gagner probable sans la taxe provinciale sur des produits agricoles. À ce propos, Amédé Nze Yoka, membre de l'Alliance des armateurs du Congo, indique que la province peut autrement valoriser ses produits que sur le plan du transport tout en gardant un bon climat des affaires. On l'écoute au micro de Paul-Richard Malingela.
On se focalise seulement sur les produits agricoles? Non. Nous voyons même que ces produits agricoles sont toujours taxés lorsqu'ils rentrent dans le mécanisme des transports, c'est-à-dire dans un processus d'évacuation. Alors pourquoi doit-on frapper l'évacuation des produits qu'on veut soutenir? Comment peut-on produire sans évacuer? Mais curieusement, on vient frapper lorsque nous arrivons au point de l'évacuation. C'est ce qui est mauvais. On devrait frapper sur tous les autres points qui ont été sélectionnés par les législateurs pour amener de l'oxygène dans les caisses de l'État. Et cela vaut de même pour toutes les autres provinces. N'oubliez pas que la province de l'Équateur n'a pas que l'agriculture. Il a la forêt. La province de l'Équateur a aussi des richesses minières, n'est-ce pas? Donc, soyons imaginatifs pour voir là où il y a des possibilités de renflouer des caisses de l'État au profit supérieur de la province de l'Équateur, plutôt que de viser une catégorie d'activités. Là, ça serait contre-productif.
Et Nadine Foula nous propose ce soir un zoom sur le climat des affaires.
Le climat des affaires, c'est l'ensemble des réglementations qui facilitent la pratique des affaires ou qui la compliquent. C'est aussi des conditions indispensables dans la pratique des affaires. Au nombre de ces réglementations, on peut relever par exemple la durée qu'il faut pour ouvrir une entreprise, les conditions pour l'obtention des crédits, pour ne citer que celles-là. Et parmi les conditions qui compliquent le climat des affaires, on compte par exemple l'accès à l'électricité, les tracasseries policières ou militaires, les niveaux de corruption des services publics. En RDC, il existe une structure chargée de travailler sur l'amélioration du climat des affaires, l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion de l'industrie. Il existe aussi le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, CPCAI. Et le climat des affaires de chaque pays est régulièrement coté par la Banque mondiale qui publie chaque année un rapport appelé Doing Business, un rapport qui classe chaque pays en fonction de la facilité à faire des affaires et à investir dans le pays. Pour 2015, par exemple, la RDC a figuré parmi les 10 économies sur les 89 pays couverts par Doing Business qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires au cours de l'année 2015, quoiqu'elle ait gardé la 184e place sur 189 pays comme en 2014.
Écho d'économie. Un groupe politique au Parlement européen tient à la traçabilité des minerais de la RDC, laquelle devra profiter à la population. C'est la déclaration de Marie Arena, une députée au Parlement européen qui a récemment séjourné dans la partie est de la RDC. Au terme d'une mission effectuée dans le pays par une délégation du Parlement européen, Marie Arena a déclaré que plusieurs sites miniers ne sont pas qualifiés, ce qui profiterait, a-t-elle dit, aux entreprises européennes. Marie Arena, députée au Parlement européen, est jointe au téléphone par Askenzi Gatairo.
Il y a une volonté de la part des Congolais d'offrir des minerais qui soient des minerais hors des situations de conflit. Le deuxième constat que l'on doit poser, malheureusement, c'est que cette qualification prend du temps. C'est-à-dire que sur les 900 sites miniers de la région, uniquement 18 ont été qualifiés et cette qualification doit être suivie, c'est-à-dire doit vraiment garantir apporte du plus aux populations locales. Nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir un mécanisme qui permet la traçabilité des minerais qui sont dans les produits consommés en Europe, mais dans l'objectif de faire en sorte que ces minerais exploités en RDC reviennent en matière de redistribution aux populations locales pour que les minerais qui viennent du sol congolais permettent d'augmenter la qualité de vie des Congolais et d'éviter les conflits, bien entendu, à l'Est, mais ailleurs également.
Au Katanga, les opérateurs miniers ont jusqu'au 30 avril prochain pour déposer leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits afférents. Le directeur de la DGI, qui s'est exprimé devant la presse ce jeudi, ajoute que ces contribuables sont aussi obligés de faire accompagner leur déclaration du bilan, du compte de résultats, du tableau financier des ressources, faute de quoi ils sont exposés à des fortes pénalités de retard. Jean-René Nkoy Moussi est au micro de Colin Djuma Moussompo.
La loi fixe toujours des dates butoirs. Cela ne veut pas dire que l'opérateur économique est obligé à payer à cette date-là. Cela veut dire tout simplement que s'il paye au-delà de cette date-là, il aura à subir des pénalités et des amendes. Et aussi bien entendu, des taxations d'office. C'est juste une date limite. Nous sommes aujourd'hui le 23, l'opérateur économique qui a déjà calculé son résultat, qui connaît son impôt, il peut bien venir payer à cette date ici. C'est pourquoi d'ailleurs nous invitons les opérateurs économiques de ne pas attendre le dernier jour, de s'acquitter déjà pendant l'état ici pour éviter les risques de connaître un dépassement des délais.
Et cet impôt s'élève à combien?
L'impôt sur le bénéfice et profit est fixé à 30% ou 35% selon que l'on est régi par les codes miniers, c'est-à-dire là il s'agit des entreprises minières qui seront appelées à payer l'impôt sur le bénéfice au taux de 30%, ou alors si on n'est pas entreprise minière, on est soumis au droit commun, on paye son impôt sur le bénéfice au taux de 35%.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Martin Sebou-Jangwe, mise en onde par Sylvain Matundu et suivie par vous. Merci.